Ariel à la technique. Bonjour Isaac.
Bonjour Richard, bonjour Ariel et bonjour à tous.
Alors Isaac, vendredi dernier, les Américains ont présenté une résolution aux Nations Unies. Espèce de spaghetti de mots diplomatiques assez compliqué à comprendre, hein, je l'ai noté. Elle disait la chose suivante. La nécessité d'un cessez-le-feu immédiat et durable pour protéger les civils de tous côtés, permettre la fourniture de l'aide humanitaire essentielle. Et rajoutait, et dans cette optique, la résolution soutient sans équivoque les efforts diplomatiques et internationaux pour parvenir à un tel cessez-le-feu en lien avec la libération des otages encore détenus et un peu plus loin, condamner le Hamas. Résolution américaine qui a vu la Russie et la Chine imposer leur veto. Je crois que l'Algérie a également voté contre. La Guyane s'est abstenue, donc il y avait 11 votes pour, 3 contre, dont 2 par des pays qui sont évidemment des membres permanents qui ont le droit de veto. Et la Russie s'est expliquée vendredi. La raison qu'elle a donnée pour son veto, c'était la condamnation du Hamas, la condamnation d'un mouvement islamique radical. Le même jour, parce que je pense que c'est vendredi qu'a eu lieu ce terrible attentat dans la banlieue de Moscou, un autre mouvement djihadiste radical a commis un grave attentat. Je pense que les derniers comptages font état de 133 morts, des centaines de blessés. Donc l'État islamique, semblerait-il la branche afghane de l'État islamique, a revendiqué l'attentat. Que suscite comme réflexion Isaac à la fois le veto russe contre le Hamas, suivi dans la même journée d'un attentat par un mouvement très proche du Hamas.
Oui, qui partagent la même idéologie, c'est les frères musulmans. L'État islamique du Khorasan, c'est l'ancien nom de l'Afghanistan, le Khorasan. Donc c'est du pareil au même. Hein. Le Hamas, c'est la branche locale, la branche à Gaza des frères musulmans. Donc c'est un peu du pareil au même. Je voudrais d'abord revenir sur ce par quoi vous avez commencé, c'est-à-dire la résolution américaine qui n'a pas été votée. Puisqu'il y a eu deux oppositions de membres permanents, la Russie et la Chine. Je passe sur l'opposition de l'Algérie et l'abstention de la Guyane. Ça n'est pas passé, effectivement, parce que cette résolution déposée par les Américains soulignait la nécessité d'un cessez-le-feu et non pas demander un cessez-le-feu immédiat. C'est sur le mot « nécessité » que les Russes ont tiqué, effectivement. Il y a également la demande de libération inconditionnelle des otages et la condamnation du Hamas. Ce sont ces trois raisons qui font que la Russie et la Chine ont opposé leur veto, si bien qu'une nouvelle résolution qui a été déposée aujourd'hui au Conseil de sécurité par le Mozambique a été, elle, votée. Grâce à l'abstention des États-Unis. Abstention pourquoi ? Parce que cette résolution, contrairement à celle que ces mêmes Américains avaient déposée la semaine dernière, eh bien, ne condamnait pas le Hamas. Pour le coup, on aurait pu imaginer que l'administration américaine s'oppose à cette résolution. Quelle est la différence entre la résolution américaine et cette résolution déposée par le Mozambique ? Indépendamment de cette absence de condamnation du Hamas, on ne parle pas de nécessité de cesser le feu, mais d'une demande de cesser le feu immédiat avec la libération inconditionnelle des otages. Il est évident que ces deux conditions ne seront pas remplies ni par les Israéliens qui accepteront de mettre un terme à leur opération militaire, ni par le Hamas qui acceptera de se débarrasser, eh bien, de son levier de chantage qui est la prise d'otage de 134 malheureux depuis presque 6 mois aujourd'hui. Et d'ailleurs, il y a eu une réaction du gouvernement israélien assez sèche. Vous savez qu'aujourd'hui devait partir de l'aéroport international de Tel Aviv une délégation conduite par Ron Dermer et Tzaki Hanegbi, responsable des renseignements aux États-Unis, pour discuter de Rafah, pour discuter de garder un avantage qualitatif pour l'armée israélienne, parler de la coopération entre Israël et les États-Unis, eh bien, le Premier ministre israélien a interdit à cette délégation de s'embarquer pour les États-Unis parce qu'il l'avait prévenu que si effectivement les États-Unis ne s'opposaient pas à cette résolution, qu'ils ne demandent pas, qu'ils ne condamnent pas le Hamas, eh bien, que cette délégation ne partirait pas. Effectivement, il semblerait que le Premier ministre est passé au fait et qu'il a opposé son veto au départ de cette délégation des deux personnalités reconnues comme extrêmement proches du Premier ministre israélien. Pendant ce temps, il y a Yoav Gallant, le ministre de la Défense, qui se trouve à Washington pour discuter également de Rafah, pour discuter du qualitative edge, c'est-à-dire de l'avantage qualitatif sur le plan militaire des Israéliens, discuter de Rafah, discuter de la libération des otages et discuter également de l'état de la relation entre Washington et Jérusalem qui, ces dernières semaines, a été fortement secouée. Alors, pour en revenir à la Russie, effectivement, le caractère concomitant de cette opposition de la Russie à une résolution de condamnation du Hamas, le refus d'accepter de voter, le refus de voter la résolution américaine qui condamnait le Hamas, eh bien, le place dans une situation pour le moins inconfortable, puisque Moscou a été frappé par un attentat absolument odieux. Abject, innommable, qui rappelle dans les mémoires les attentats les plus douloureux à nous occidentaux. On pense naturellement au Bataclan. Le modus operandi ressemble furieusement à ce qui s'est passé en 2015, en novembre 2015, puisque ce sont une escouade de terroristes qui sont rentrés dans des salles de spectacle, dans un grand mall, le plus grand mall de Moscou, et ont assassiné 137 personnes et avec quelques centaines de blessés. Qu'est-ce que ça nous dit, ça? Ça nous dit que... Dans un rare éclair de lucidité du président de la République française, Emmanuel Macron, il avait déclaré de la Russie qu'elle n'est pas l'ennemi, elle est un adversaire. En revanche, tout le monde s'accorde à dire que l'État islamique, les salafistes, les radicaux de l'islam, comme l'État islamique, comme Daesh, comme Al-Qaïda, comme les frères musulmans en général, sont l'ennemi. Et c'est l'ennemi aussi bien de la Russie que de l'Occident. Et donc une coopération sur ce plan-là devrait être possible. Et du reste, les Américains semblent avoir informé les Russes de la possibilité d'un attentat de masse à Moscou. Les autorités russes semblent ne pas en avoir tenu compte et la catastrophe est arrivée. 137 morts, c'est absolument catastrophique. Et donc il y a une différence de regard sur le fait que la Russie est un adversaire, l'État islamique est un ennemi. Il y a une différence de degré extrêmement importante, parce que, effectivement, la lutte contre le terrorisme international, ça concerne tout le monde. Il y a une alliance objective entre les États-Unis, la Russie, l'Occident, l'Union européenne en général, contre l'État islamique. Il devrait y avoir une même unité d'intention et une même condamnation contre le Hamas, qui n'est rien d'autre que l'État islamique à Gaza. Et donc, il y a une différence. La Russie est un adversaire. Elle a agressé l'Ukraine dans une guerre qui semble être une ressucée du suicide européen de 1914-18, de 1914-1918, alors que face à l'État islamique et à l'islam radical, aux frères musulmans en général, eh bien, c'est une guerre planétaire qui devrait fabriquer des alliances entre les États-Unis et la Russie. Donc ça montre bien le degré de danger face auquel se trouve l'ensemble de nos sociétés. Et on en a pour preuve eh bien, le relèvement de la menace en France, où le président Macron a décrété l'état d'urgence et le déploiement dans la capitale française et dans les grandes villes françaises de l'armée.
Oui, alors effectivement, vous avez mentionné Emmanuel Macron. Il y a eu un moment de lucidité, peut-être de plus en plus rare en ce qui le concerne, mais il avait eu aussi, souvenez-vous, au tout début de cette histoire, juste après le 7 octobre, il avait eu encore un moment de lucidité également.
Ça n'a pas duré longtemps.
Pas duré très longtemps, malheureusement. Mais où il avait dit, souvenez-vous à l'époque...
Coalition internationale contre le Hamas.
Il faudrait qu'on reconstitue la fameuse coalition internationale qui avait été constituée par les États-Unis à l'époque, lorsqu'il s'agissait effectivement de combattre l'État islamique. Il avait eu cette idée de dire, effectivement, le Hamas, c'est le même combat que l'État islamique, et songeons à reconstituer cette coalition internationale pour se battre contre le Hamas. Bon, personne n'avait entendu son appel. Et bon, effectivement, malheureusement, depuis, le son de cloche a beaucoup, beaucoup changé.
Il avait vu juste. C'était un autre de ces éclairs de lucidité où, effectivement, il avait compris d'instinct, d'intuition, que le Hamas est effectivement aussi dangereux que l'État islamique. Ça n'est rien d'autre que l'État islamique sous couvert de causes palestiniennes. Et donc, il avait suggéré la mise sur pied d'une coalition internationale pour lutter contre le terrorisme islamique. Il faut savoir une chose, et c'est ça qui est incompréhensible. Je veux dire, tout le monde a souffert de ce terrorisme islamique. On se rappelle naturellement l'attentat contre les deux tours à New York. On se rappellera les attentats du Bataclan et ceux de Nice. Et puis tous les autres, aux Arras Torin,
le
musée juif ici à Bruxelles.
Le Rabetten également.
Bien sûr, on se rappellera donc Atocha à Madrid, le 7 juillet à Londres. Donc il y a eu, tout le monde a souffert de ces... Et tout le monde est un peu impuissant face à cette menace. Même chose, d'ailleurs, lorsque les Américains, après les Russes, après les Soviétiques, sont intervenus en Afghanistan, avant de s'en retirer piteusement, c'était aussi pour lutter contre le terrorisme. Et donc on voit aujourd'hui un théâtre où il y a cet affrontement entre une démocratie éclairée, une démocratie libérale, je parle d'Israël, naturellement, et une forme... De ce terrorisme qui a blessé le monde entier. Et là, Israël marque des points. C'est peut-être le seul théâtre de guerre où l'agressé ou la démocratie prend le pas sur le terrorisme. Et c'est précisément cette démocratie qu'on veut entraver, qu'on veut empêcher d'aller au bout d'une victoire et envoyer un message à tous ces... à tous ces terroristes, quelle que soit leur étiquette, État islamique, Al-Qaïda, ou frères musulmans, ou n'importe quoi. C'est le seul théâtre où une démocratie prend le pas. Et c'est extraordinaire, cette espèce d'union sacrée qui va de la Chine aux États-Unis pour lier les mains d'Israël dans le dos et l'empêcher de remporter une victoire qui enverrait un message absolument indispensable. Aujourd'hui, plus que jamais, lorsqu'on analyse ce qui s'est passé à Moscou, il faudrait une union sacrée derrière Israël. Et c'est tout le contraire que l'on constate.
Et parce qu'effectivement, cet attentat à Moscou annonce des lendemains qui déchantent. On pensait effectivement qu'en 2019, on avait sonné le glas de cette organisation. Mais absolument pas. Vous mentionniez effectivement la débâcle américaine.
D'Afghanistan.
En Afghanistan, cette retraite.
Piteuse.
Piteuse, tout à fait. Qui, effectivement, a probablement permis une résurgence de l'État islamique en Afghanistan, puisque semblerait-il que ce soit cette branche-là d'État islamique qui serait responsable de l'attentat à Moscou. Mais enfin, ce n'est pas le seul pays où se trouvent des branches, si je puis dire, des extensions de l'État islamique, mais même au cœur même de la Syrie et de l'Irak. Je lisais un article ce week-end du Wall Street Journal qui expliquait que les Américains sont de plus en plus inquiets parce qu'il y a environ une vingtaine de centres de rétention en Syrie, où sont toujours retenus une cinquantaine de milliers de combattants, d'anciens combattants. J'exagère, une dizaine de milliers, mais avec leurs familles. Donc il y a environ 50 000 personnes de retenue, dont 10 000 combattants ou 10 000 terroristes de l'ISIS qui sont toujours dans ces centres de rétention, gardés essentiellement par des Kurdes, alliés des Américains, qui sont eux-mêmes attaqués constamment par les Turcs et qui commencent à se dire, est-ce que c'est toujours le rôle que de garder ces camps de rétention où se trouvent ces anciens terroristes de l'État islamique. C'est des gens qui viennent du monde entier, d'ailleurs. Ces 10 000 combattants viennent en partie de Russie, de Chine, de Bosnie, enfin de plein de pays où se trouvent des musulmans qui avaient décidé, même d'Europe d'ailleurs, il y a quelques Belges qui s'y trouvent aussi, qui avaient décidé de rejoindre l'État islamique pour combattre à leur côté. Ces gens sont toujours là et cet article faisait état d'une incursion qu'ont fait les Kurdes dans l'un de ces camps. Ils y ont trouvé des choses abominables. Ils ont trouvé des caches d'armes à n'en plus finir. Ils ont trouvé un traitement des femmes qui est catastrophique. Ils ont trouvé des jeunes filles décapitées. Ils ont trouvé que les jeunes garçons étaient séparés des autres pour les préparer à, si je puis dire, ensemencer les jeunes femmes pour créer la nouvelle génération de terroristes de l'État islamique. Donc, il y a là un ferment de ce qui va se produire dans peu de temps. Le risque terroriste est encore extrêmement élevé pour nos pays.
Il est planétaire. Il déborde même en Afrique. Pensons au Nigeria, pensons à Boko Haram. On donne peu d'informations sur l'enlèvement de centaines de personnes, de centaines de chrétiens par les milices de Boko Haram au Nigeria. C'est une même guerre religieuse. Donc c'est une guerre planétaire. Et c'est une guerre aussi qui oppose les sunnites aux chiites. C'est pas indifférent de relier cet attentat de l'État islamique contre Moscou, qui est allié avec l'Iran chiite, avec les Houthis chiites. Et donc, pour l'État islamique, les Russes sont une double cible, à la fois parce que ce sont des chrétiens, et avant tout parce que ce sont des chrétiens, et aussi parce qu'ils sont les alliés d'apostats comme les chiites pour les sunnites. Donc, il y a ça en arrière-fond. Et puis, j'insiste sur cette cécité, cette incapacité de voir que ce qui se joue à Gaza se joue le sort du monde, littéralement le sort de cette guerre planétaire contre le terrorisme international incarné par toutes ces organisations, se joue à Gaza. C'est le seul endroit au monde où une victoire probante, significative sur une organisation puissante, soutenue à la fois par les sunnites, puisque le Hamas est une organisation sunnite, antenne des frères musulmans sunnites, et en même temps alliée des chiites iraniens, c'est le seul endroit au monde où vous avez ce bras de fer qui oppose le monde éclairé, le monde occidental, le monde judéo-chrétien au terrorisme. C'est le seul endroit où vous avez une victoire possible à condition qu'on laisse Israël faire son travail, ce qui n'est pas le cas. Et c'est totalement incompréhensible, d'autant moins compréhensible, et je termine là-dessus, vous avez entendu le rappel des titres par notre journaliste Lucie tout à l'heure, elle donnait l'information que des armes, une saisie d'armes très importante en Jordanie, qui était destinée à la Judée-Samarie, pour armer les terroristes, les cellules terroristes qui s'y trouvent. Et on voit le danger qu'il y a à donner un État aux Palestiniens en Judée-Samarie où Israël n'aurait pas le contrôle de la sécurité par l'intermédiaire de la vallée du Jourdain, par exemple. Donc on voit non seulement cette cécité face au conflit qui se joue aujourd'hui à Gaza, mais cette récompense que le monde occidental se prépare ou se déclare prêt à donner au terrorisme en disant « nous allons récompenser ce qui s'est passé le 7 octobre en vous donnant un État ». Alors que l'on voit que la contrebande d'armes à travers la frontière entre la Syrie et la Jordanie, elle est en de peu plus poreuse, et qu'on voit à quel point c'est une illusion de penser qu'un État démilitarisé palestinien est possible lorsqu'on voit que la contrebande d'armes est aussi facile, s'il n'y avait le contrôle des Israéliens.
Alors, effectivement, vous avez mentionné aussi tout à l'heure cette délégation israélienne, Dermer et Hanegbi, qui étaient censés se rendre aux États-Unis pour effectivement discuter surtout de la situation à Rafah.
Oui.
On sait que les Israéliens ont pour objectif de totalement détruire, éradiquer, en tout cas les forces militaires du Hamas. Les derniers bataillons du Hamas sont regroupés justement à Rafah. Et les Israéliens ont pour objectif effectivement d'organiser une opération terrestre dans Rafah pour effectivement éradiquer ces derniers bataillons. On sait que cet objectif-là est interdit, si je puis dire, quasiment par la communauté internationale. Ils font état d'immenses risques humanitaires si jamais cette opération devait avoir lieu. Et les Américains, effectivement, ont demandé à ce que les Israéliens envoient cette délégation pour discuter de la situation.
Leur faire des propositions alternatives.
Voilà, pour faire des propositions alternatives, parce que, disent-ils, ils n'auraient toujours pas reçu un plan israélien réaliste d'évacuation des civils de Rafah. Ceci étant dit, ils n'ont toujours pas, eux non plus, donné le moindre plan réaliste d'une opération alternative à celle envisagée par les Israéliens pour se débarrasser du Hamas à Rafah. Donc d'un côté, ils soutiennent Israël dans leur volonté d'éradiquer cette organisation. D'un autre côté, ils disent, écoutez, vous ne pouvez pas y aller parce que le risque humanitaire est trop important. Et à ce jour, nous n'avons toujours pas reçu de votre part un plan crédible d'évacuation des civils. Et venez discuter avec nous parce que nous avons des idées alternatives, sauf que moi, en tout cas, je n'ai pas entendu le début du commencement d'un plan alternatif venant des Américains.
Non, ce qu'ils proposent, ce sont des opérations de contre-terrorisme, des opérations ciblées, c'est-à-dire qu'on va avoir des unités, des forces spéciales israéliennes qui vont débarquer avec leur M16 et qui vont chercher, sans intervention de l'armée, de l'aviation, sans intervention des blindés, sans intervention de l'artillerie, pour préparer le terrain, naturellement, eh bien, vont entrer dans Rafah. C'est évidemment improposable. Il n'y a personne qui peut imaginer que le Hamas peut être défait complètement si les Israéliens n'entrent pas dans Rafah. Tous les experts militaires s'accordent pour dire qu'il est indispensable pour les Israéliens de rentrer dans Rafah. Pas seulement dans Rafah pour réduire à néant les quatre bataillons qui restent plus ou moins organisés de l'organisation génocidaire du Hamas, mais aussi pour prendre le contrôle du couloir, du corridor Philadelphie, qui a permis jusqu'à aujourd'hui et qui continue de permettre d'ailleurs au Hamas d'alimenter son armement par les tunnels de contrebande qui passent de la péninsule du Sinaï égyptien jusque à Rafah. Donc il est indispensable, comme le disait Mike Pompeo, l'ancien secrétaire d'État aux affaires étrangères américain dans l'administration Trump, on n'éteint pas un incendie à 80%. On ne combat pas un cancer à 80% en laissant une tumeur à 20% parce que rapidement il reprend vie. C'est absurde. Tout le monde le sait. Il n'y a pas besoin d'être un expert militaire, pas besoin de sortir de West Point pour comprendre que la prise de Rafah est absolument indispensable. Et c'est tout le contraire qu'on fait. Alors, il y avait la solution la plus facile, compte tenu des leviers d'action que dont dispose l'administration américaine sur l'Égypte, c'était de forcer l'ouverture de la frontière entre l'Égypte et Rafah. Je rappelle qu'il y a une frontière entre l'Égypte et Rafah longue de 14 kilomètres pour permettre à la population civile de Rafah de temporairement se mettre à l'abri dans la péninsule du Sinaï et puis d'y revenir une fois que les Israéliens auront terminé leur opération militaire. Eh bien non, cette frontière, elle est scellée à la demande d'ailleurs des Américains. Et il y a effectivement cette déclaration des Américains qui disent « Nous n'avons pas encore vu un plan crédible d'évacuation de cette population ». Je note au passage la déclaration de Macron aujourd'hui, qui n'avait pas un éclair de lucidité, aujourd'hui en tout cas, qui déclare qu'un déplacement forcé serait un crime de guerre. On ne comprend pas très bien. Donc le déplacement plus ou moins forcé, inviter une population d'un million de personnes à se déplacer, on ne sait pas très bien si c'est forcé ou pas forcé. Évidemment, la situation force la population palestinienne à aller vers le nord. Ça paraît évident. Donc ce serait un crime de guerre. Mais la laisser sur place et intervenir à Rafah, là où tout le monde sait que c'est indispensable, là, ce serait un crime contre l'humanité. Donc ça n'a strictement aucun sens. Et ça nous ramène à ce que je disais tout à l'heure. On est parfaitement conscient que ce qui se joue aujourd'hui à Gaza, c'est sur ce théâtre d'opérations extrêmement réduit sur le plan topographique, est une guerre à dimension et à conséquences planétaires. Il faudrait, s'il y avait un peu de lucidité, un peu de courage de la part des dirigeants occidentaux, et pas seulement occidentaux, je pense aussi aux Russes, de comprendre que ce qui menace Israël, les menaces absolument tous. Il y a une piqûre de rappel, la dernière c'était à Moscou, et qu'il faut impérativement qu'une armée donne une leçon à ce terrorisme pour y mettre un coup d'arrêt. Et c'est tout au contraire, c'est le contraire auquel on assiste, et au contraire on se saisit de n'importe quelle accusation portée contre les Israéliens pour demander des comptes à Israël. La dernière, c'est les Israéliens qui commettraient des actes de violence, de torture ou même de crimes, de viol contre les femmes palestiniennes à Gaza. Et pour finalement entendre, et vous savez, ça a été vite relayé, hein, ça a pris comme un feu de forêt sur du bois sec. Eh bien, très rapidement, on a entendu les admonestations de toutes les chancelleries occidentales demandant à Israël des comptes, des enquêtes. Il faut absolument que Israël enquête sur ces allégations. Et aujourd'hui, on apprend que le Hamas dit non, ça s'est pas passé parce que le Hamas a fait une enquête. Pourquoi est-ce qu'il le déclare que effectivement ça s'est pas passé? Parce qu'il craint, eh bien, que toutes les familles, eh bien, s'en aillent de Gaza. Parce que passer devant la crainte de voir leur jeune fille ou bien leur femme être victime du prétendu viol des soldats israéliens. Et Al Jazeera, qui avait donné une dimension planétaire à cette information, dément aussi que ça existait. Mais pendant ce temps, le mal est fait. Donc tout est bon pour alimenter ce procès en sorcellerie qui est fait au quotidien contre Israël.
Alors vous avez dit, parce que là je voulais vous reprendre, vous avez dit tous les experts s'accorde à dire que la seule façon de se débarrasser du Hamas à Rafah, c'est par l'intermédiaire d'une opération terrestre. Eh bien, il y a une experte, Isaac.
Ah oui.
Une immense experte militaire.
Pardon.
La dénommée Kamala Harris.
Oui.
Parce que Kamala Harris a fait une déclaration ce week-end en disant qu'elle avait analysé les cartes.
Je crains le pire.
Oui, elle a analysé les cartes. Et ayant analysé ces cartes, elle était arrivée à la conclusion qu'une opération terrestre était juste impossible à réaliser.
Oui, une grave erreur.
Une grave erreur.
Et que si les Israéliens la commettaient, cette grave erreur, eh bien, il y aurait des conséquences néfastes pour l'État d'Israël. Donc une menace qui n'est même pas voilée.
Oui, tout à fait. Alors effectivement, vous mentionnez aussi cette accusation de viol, de torture, etc., qui aurait été perpétrée par les soldats israéliens contre des femmes palestiniennes. C'était, je crois, dans le cadre de leur opération à Al-Shifa.
Oui.
Ce fameux hôpital qui était le cadre des opérations au tout début de cette guerre. Et ça, c'est quand même un élément, en tout cas de mon point de vue, assez inquiétant. Parce qu'effectivement, ils avaient démarré la guerre avec le Nord, hein, dans Gaza City. Et on sait toutes les difficultés qu'ils avaient rencontrées au début avec l'hôpital Al-Shifa. Ils avaient déclaré quelques semaines après, finalement, qu'ils avaient remporté la victoire contre le Hamas dans cette région de Gaza. Ils avaient ensuite mené les opérations dans le centre, à Khan Younis. Effectivement, oui. Avec maintenant l'intention d'aller dans le sud, à Rafah. Et c'est vrai que depuis quelques jours, depuis peut-être même plus d'une semaine, des opérations très lourdes militaires se déroulent dans le nord de Gaza, dans Gaza City, et effectivement, autour de cet hôpital, ou au centre même, ou dans le cœur même de l'hôpital Al-Shifa, où ils auraient, probablement qu'ils ont tué 150, 160 terroristes du Hamas et fait prisonniers quelques centaines d'autres terroristes. Bon, ça laisse peut-être penser que, comme des mauvaises herbes, ce qu'on pensait être une victoire il y a quelques semaines, finalement, n'en est peut-être pas une de manière aussi flagrante qu'il ne l'avait déclaré à l'époque.
Écoutez, il y a un réseau souterrain qui existe, qui a été partiellement détruit, mais pas totalement détruit, ce qui permet eh bien, aux terroristes du Hamas de continuer de se déplacer. Et d'aller au gré des avancées israéliennes vers le sud lorsque les Israéliens vont vers le nord, et puis ils migrent à nouveau vers le nord une fois que les Israéliens s'intéressent à Khan Younes, par exemple. Donc rien de vraiment surprenant. Maintenant, cette guerre à grande échelle qui a eu lieu en Gaza City, dans les villes du nord de la bande de Gaza et au centre de la bande de Gaza, ces grandes manœuvres sont terminées. Effectivement, les Israéliens peuvent à bon droit dire qu'ils ont gagné. Maintenant, il y a des opérations de nettoyage. Il faut terminer ce travail. C'est des opérations qui se poursuivront certainement pendant de très très longs mois. Même après la prise de Rafah, il faudra continuer à nettoyer les poches résiduelles qui continueront d'exister. Et là, ce seront effectivement des opérations antiterroristes du genre de celles qui existent en Judée-Samarie lorsque les Israéliens interviennent par exemple à Jenin ou à Tulkarem. Donc c'est quelque chose qui va s'installer dans le temps. Mais effectivement, il existe encore une forme d'existence armée du Hamas qui migre au gré des avancées de l'armée israélienne dans la bande. Donc ça n'a pas vraiment, c'est pas vraiment une surprise. Le fait est que l'opération menée par l'armée israélienne à Shifa a eu un résultat assez spectaculaire, puisqu'il y a eu la mort de 150 à 200 terroristes, plus 800 personnes qui ont été prisonnières, parmi lesquelles il y a des personnes haut placées dans l'organisation du Hamas. Et donc une source de renseignements extrêmement importante, parce que cette guerre... ou l'évolution de cette guerre pour les Israéliens, elle s'invente au jour le jour au gré des informations qui sont récoltées auprès des prisonniers. Et il semble que la récolte d'informations faites par le Shin Bet, qui accompagne d'ailleurs les unités spéciales israéliennes à Al-Shifa, ont récolté une moisson d'informations particulièrement intéressantes, pas seulement pour ce qui concerne Al-Shifa, mais également tous les autres hôpitaux. Et également pour Rafah. Donc une grande saisie d'informations qui permettront aux Israéliens d'y voir un peu plus clair chaque jour. Donc c'est une guerre qui est work in process, et la tendance laisse penser qu'effectivement les Israéliens ont marqué des points tactiques et stratégiques extrêmement importants. Reste pour Israël le plus difficile, c'est de remporter une victoire politique.
Alors, vous avez effectivement mentionné que Yoav Gallant, lui, était aux États-Unis. Son voyage, lui, n'a pas été annulé. Lui rencontre, je pense, son collègue américain Lloyd Austin.
Oui.
Il y va pour négocier effectivement le maintien de la supériorité stratégique militaire d'Israël vis-à-vis des autres pays dans la région. Je pense qu'il est à la recherche de nouveaux F-15, nouveaux F-16, d'hélicoptères Apache et d'autres équipements de ce calibre. Il y a un autre pays au nord des États-Unis, le Canada, pour ne pas le nommer, qui, lui, a décidé une toute autre mesure. Un vote a eu lieu au Parlement canadien.
Oui.
Je crois que le projet de loi avait été déposé par le nouveau Parti démocratique canadien, qui est un peu l'équivalent de LFI, je pense, ici en France, ou du PTB, enfin, c'est l'extrême-gauche canadienne. Projet de loi qui demandait un boycott, en fait, hein, de livraison d'armes du Canada à Israël, et aussi le soutien du Canada à toute action en justice qui pourrait être intentée, par exemple comme celle qui avait été intentée par l'Afrique du Sud à la Cour internationale de justice, donc demandait également le soutien du Canada à ce type d'action. Voilà le projet de loi qui a été déposé par un parti relativement marginal encore au Canada, mais qui a été soutenu par le parti de gouvernement, le parti libéral de Trudeau.
Oui, ça rentre... vous donnez des couleurs à ce tableau que j'essayais de peindre à propos de cette guerre pratiquement planétaire, non pas contre le terrorisme, mais contre le pays qui lutte le plus efficacement contre le terrorisme, c'est-à-dire Israël. Et c'est ça qui est ahurissant. C'est que le monde entier, eh bien, sermonne Israël à tout bout de champ, pour n'importe quel prétexte. On a entendu, par exemple, David Cameron, le misérable titulaire du portefeuille du Foreign Office en Grande-Bretagne, demander des comptes à Israël sur ces accusations faites par certains Palestiniens, aujourd'hui démenties, comme on l'a rapporté, que les Israéliens violaient des femmes palestiniennes. C'est quand même dingue, cette histoire-là. On voit d'ailleurs que si David Cameron n'est pas convaincu par la réponse israélienne, eh bien, on pourrait envisager au Foreign Office, eh bien, une même demande que la demande canadienne, c'est-à-dire de décréter un embargo sur les armes britanniques à destination d'Israël. On a vu la Hollande placée devant la même situation. On voit aussi, eh bien, des pays européens membres de l'Union européenne. Je pense en particulier à l'Espagne qui ne manque jamais de se distinguer avec Malte, avec la Slovénie et avec l'Irlande, évidemment. Étonnamment, il y manque la Belgique, pour, de concert, aller vers la reconnaissance unilatérale d'un État palestinien. Donc vous voyez quelque chose qui est... on marche sur la tête, littéralement. C'est le monde à l'envers. C'est le monde à l'envers. Vous devriez avoir le monde entier derrière Israël, parce que se joue une guerre qui est essentielle pour notre sécurité, pas la sécurité des Israéliens. Je peux comprendre que les Européens se fichent complètement de la sécurité des Israéliens. Mais il en va de la leur. Eh bien, il s'agit de récompenser ce même terrorisme contre lequel on est censé lutter.
Et pour terminer sur le Canada, parce que non seulement donc, ils ont voté un boycott des livraisons d'armes à Iran, mais au même moment, ils ont levé la suspension financière, ils avaient suspendu leur aide financière à l'UNRWA.
Oui.
Souvenez-vous, lorsque ce rapport de UN Watch était sorti il y a quelques semaines, démontrant qu'une douzaine de terroristes du 7 octobre étaient, en fait, des membres de l'UNRWA, montrant également que de 10 à 15% du personnel de l'UNRWA, des 12 ou 13 000 personnes travaillant pour l'UNRWA à Gaza, étaient eux-mêmes aussi affiliés au Hamas. Donc souvenez-vous qu'à la suite de ce rapport, de nombreux pays avaient décidé de suspendre leur aide financière à l'UNRWA, y compris des très très gros donateurs comme les États-Unis et l'Allemagne. Mais le Canada, suite à un rapport intérimaire qui a été produit par Catherine Colonna, on sait que suite à ce rapport, eh bien, les Nations Unies et Guterres ont décidé de demander à Catherine Colonna, l'ancienne ministre des Affaires étrangères française, qui avait d'ailleurs avant ce rôle-là félicité l'UNRWA pour le travail exemplaire que réalisait l'UNRWA à Gaza, donc avait mandaté Catherine Colonna pour enquêter sur, sur ce qu'il en était, effectivement, de la présence du Hamas au sein de l'UNRWA. Elle a remis un rapport intérimaire où, en substance, elle dit, circulé, il n'y a pas grand-chose à voir.
12 pommes.
Oui, il y a quelques petites recommandations qu'elle fera dans le courant du mois d'avril. Mais en attendant, sur base de ce rapport intérimaire, le Canada et d'autres.
Les pays scandinaves.
Les pays scandinaves, l'Irlande, l'Espagne. La Belgique, je pense aussi, d'ailleurs,
oui. Hein,
ont décidé de reprendre le financement de cette organisation. Donc, d'un côté, on empêche un État démocratique qui se bat effectivement, contre les mouvements islamiques, bah, d'obtenir les armements nécessaires pour pouvoir mener ce combat. Et d'un autre côté, on finance une organisation qui est infiltrée par ces mêmes organisations islamiques pour permettre, j'imagine, à ces organisations de combattre encore plus efficacement contre cet État démocratique.
C'est exactement ça. Il faut se rappeler que l'UNRWA, elle a été créée en 1949 dans ce but-là, de donner une agence de l'ONU tout spécialement engagée à pour les réfugiés palestiniens, alors qu'existe le Haut Commissariat aux réfugiés, c'est pour fixer les Palestiniens dans une posture de victime qui est d'ailleurs transférée de génération en génération. On est parti de 650 000 Palestiniens réfugiés après la guerre d'indépendance d'Israël à aujourd'hui 5 ou 6 millions. Pourquoi ? Parce qu'on a voulu créer ce problème. On a voulu créer ce problème. Et aujourd'hui, l'UNRWA, c'est rien d'autre que le bras, comment dire, le bras humanitaire du Hamas. Il en va de même de toutes les agences de l'ONU qui ont achevé ces dernières semaines de se discréditer, bras dessus d'ailleurs avec l'Union européenne, à se demander d'ailleurs quel rôle diplomatique, quel rôle politique à l'avenir pourrait jouer qualité de médiateur, l'ONU comme l'Union européenne, après s'être rallié pratiquement comme un seul homme derrière le narratif palestinien contre Israël. Je prends à témoin la dernière déclaration de Guterres à la frontière entre l'Égypte et Rafah, qui accuse Israël et la bande de Gaza, qui accuse Israël d'empêcher la livraison de l'aide humanitaire à Gaza, alors que, preuve à l'appui, le COGAT fournit les chiffres de l'aide humanitaire qui transite par Israël à la bande de Gaza, et que ce sont les organisations humanitaires, dont l'UNRWA, qui se révèlent totalement incapables de distribuer cette aide, et qui sont incapables également d'empêcher le Hamas de s'en emparer, puis de le revendre au marché noir. Ce qui rend l'accès de cette aide humanitaire, qui est en principe gratuit pour la population palestinienne, pratiquement inaccessible du fait des prix élevés exigés par le Hamas. Donc, on est littéralement dans l'enrôlement des organisations internationales, comme l'ONU, comme l'Union européenne, derrière une organisation terroriste dont le but affiché est le génocide des Juifs.
Et effectivement, quand on regarde le nombre de camions qui rentrent par jour aujourd'hui, le dernier chiffre que moi j'ai vu, c'est de 100 camions par jour. Oh, un chiffre plus élevé.
C'est plus que ça.
Plus que ça.
Oui, oui, on approche les 200 quotidiens, bon. C'est-à-dire plus élevé que ce qu'on avait avant le 7 octobre.
Avant le 7 octobre,
ouais. Oui, bien sûr.
Tout à fait. Donc,
Donc c'est un blood libel. Ah,
oui.
C'est, encore une fois, c'est un blood libel. C'est comme ce blood libel contre les Israéliens qui violeraient. Vous savez, il y a la réalité du viol de ces malheureuses le 7 octobre. Je parle des, là, un viol.
Des femmes israéliennes.
Comprouvées, des femmes israéliennes, devant lequel tout le monde s'est tu pendant 2 mois. n'a pas voulu, il a fallu recueillir des preuves innombrables pour commencer de convaincre, eh bien, le monde sceptique devant les accusations légitimes portées par l'État d'Israël contre l'organisation génocidaire du Hamas. Il a fallu des mois pour qu'ils consentent à entrouvrir leurs yeux et entrouvrir leur bouche pour condamner. Mais comme un seul homme, il a suffi pour que symétriquement les Palestiniens accusent les Israéliens de viol contre les femmes palestiniennes, que le monde entier s'embrase et que toutes les chancelleries, là, ne doutent pas des accusations. Ça m'a fait penser, c'est aussi un blood libel, ça. Ça m'a fait penser à cette accusation inversée de viol ou de non-viol par les soldats israéliens contre les Palestiniens. C'était une accusation qui a été lancée au début de ce siècle, au tout début du siècle, années 2000, 2001, 2002, par Sarah Daniel, la fille de Jean Daniel, du Nouvel Observateur, qui avait accusé les Israéliens non pas de violer les Palestiniennes, mais de ne pas les violer au motif que les femmes palestiniennes étaient indignes du sperme des Israéliens. Donc vous voyez, c'est ahurissant ce qui se passe. On est véritablement dans une démonisation, dans une diabolisation, dans une satanisation d'Israël. Et ça se fait non pas par des États peu recommandables, mais ça se fait par la bouche de Guterres, qui est quand même le patron de l'ONU, de Joseph Borrell, qui accuse Israël d'entraver la livraison de l'aide humanitaire. Et donc il y a une sorte de consensus international pour empêcher Israël de remporter une victoire dont les dividendes seraient récoltés par le monde entier.
Et ce qui nous permet peut-être de reparler de ces otages, parce qu'on en parle de moins en moins finalement de ces otages. Il en reste 134. Oui. Hein. Donc, malheureusement, probablement une bonne trentaine sont peut-être déjà décédés.
Vraisemblablement plus, et
peut-être
sinon
même plus,
beaucoup
de plus,
oui.
Effectivement. Mais on sait que les négociations pour leur libération continuent d'avoir lieu au Qatar avec les Égyptiens, les Américains et d'autres. Ce que vous dénoncez là, effectivement, cette pression incessante qui est exercée par le monde occidental contre Israël, ne peut bien évidemment pas être propice à permettre à ces otages d'être libérés. Si on est le Hamas, si on est Yassine Noir, là, qui est comme un rat enfui là, dans ces tunnels quelque part à Rafah probablement, et qu'il voit effectivement ce qui est en train de se produire, cette pression, cette démonisation de l'État d'Israël, il se dit, il a plutôt intérêt à attendre. Attendre que cette pression continue, que cette pression augmente, qu'elle empêche Israël effectivement de rentrer dans Rafah, et par ce mécanisme-là, de faire augmenter considérablement le prix, malheureux, si je puis dire, d'utiliser ce terme de prix, mais d'augmenter considérablement le prix que représentent les otages qu'il a encore à sa disposition.
Mais c'est l'ABC de la stratégie du Hamas. On le sait depuis le début. C'est pas seulement d'utiliser le Hamas, c'est d'utiliser sa propre population civile comme boucliers humains, de l'exposer. Pour les Israéliens, la mort d'un Palestinien, c'est une tragédie. D'un civil palestinien, c'est une tragédie. Pour les Palestiniens, pour le Hamas, c'est une stratégie. C'est tout différent. Donc la stratégie du Hamas d'utiliser les boucliers humains, elle est connue de tous. S'ajoute naturellement la couche supplémentaire des otages israéliens. Et le calcul du Hamas s'est révélé exact. C'est qu'en durant suffisamment longtemps, avec ce narratif palestinien qui a été hurlé dans l'oreille du monde occidental par les manifestations océaniques absolument partout en Occident, eh bien ce narratif palestinien s'est petit à petit imposé au point que désormais les chancelleries y adhèrent. Et donc, eh bien il lui suffit d'attendre, de faire preuve de patience, puisqu'il voit désormais que le monde entier cherche à entraver la marche d'Israël vers la victoire contre le terrorisme palestinien. Et plus il y aura de victimes civiles, plus il y aura de victimes civiles, plus il y aura des destructions, plus ça joue pour le compte du Hamas. À ce compte-là, le Hamas a gagné. Le Hamas a gagné parce qu'il aura contribué Et ça, c'est peut-être la victoire du Hamas qui laissera les traces les plus profondes dans la conscience collective des pays dans lesquels nous vivons, c'est d'avoir appris au monde une nouvelle raison de détester les Juifs, en diabolisant, démonisant, satanisant Israël. Et ça, il l'a réussi. Il l'a réussi. Lorsqu'on voit cette même levée de boucliers contre Israël, pour empêcher la victoire légitime d'Israël, qui donnerait des dividendes à tout le monde, eh bien, le Hamas aura appris au monde une nouvelle langue de la détestation d'Israël.
Alors, les toutes dernières discussions, d'après ce que j'ai pu lire, concernant ces négociations, feraient état de la libération d'une quarantaine d'otages en échange de 7 à 800. Terroristes palestiniens retenus dans les prisons israéliennes, pour un cessez-le-feu qui durerait d'abord, je pense, jusqu'à la fin du Ramadan, mais qui aurait vocation, bien évidemment, à se prolonger au-delà, et puis qui permettrait alors l'entrée plus massive et une distribution, j'imagine, plus efficace de cette aide humanitaire. Donc ça, ce sont les... D'après ce que j'ai compris, hein, les tout derniers échanges qui auraient eu lieu. Mais ce que je trouve assez intéressant, c'est ce ratio-là de 40 à 800.
Oui, 1 pour 20.
1 pour 20. Moi, je me souviens, il y a quelques semaines, on n'arrêtait pas de parler qu'une vie palestinienne ne vaut pas moins...
Qu'une vie israélienne.
Une vie israélienne, oui. Hein, parce que semblerait-il que les milliers de morts palestiniens laissaient tout le monde dans l'indifférence générale, alors que c'est bien évidemment... Le contraire, enfin, tout le monde est totalement indifférent, mais tout le monde s'en sert dans le but que l'on sait, hein, pour démoniser Israël. Mais là, subitement, hein, le taux de change a radicalement changé lorsqu'il s'agit de faire un échange d'otages d'un côté et de terroristes de l'autre. Le ratio est de 1 à 20.
Oui. Dont quelques centaines de prisonniers condamnés à perpétuité pour des crimes de sang. Donc je ne sais pas ce que vont donner ces négociations concernant la libération de ces 40 otages alors qu'on vient de voter une résolution aux Nations Unies, au Conseil de sécurité, demandant la libération inconditionnelle de tous les otages. Je ne sais pas très bien en quoi ça n'est pas contradictoire, ça, ces négociations pour 40, alors que les États-Unis viennent de ne pas s'opposer au passage d'une résolution demandant la libération inconditionnelle de tous les otages. Je ne sais pas très bien. Mais le rôle des États-Unis ici... Vous voyez, il est encore plus éclatant dans la gestion de... Rappelez-vous cette déclaration de Joe Biden dans son discours sur l'état de l'Union, il y a de ça quelques semaines. Il avait déclaré que les États-Unis allaient prendre l'initiative de la construction d'un port flottant pour permettre l'acheminement par voie maritime à partir de Chypre de l'aide humanitaire. Avec le contrôle israélien au port de Chypre. Bien. Mais à qui est-ce que les Américains vont confier la construction de ce port ? Au Qatar. Et à qui le Qatar va confier concrètement la construction de cette installation ? C'est une entreprise qui est contrôlée par le Hamas. Donc c'est absolument ahurissant. Vous avez les États-Unis qui prétendent être les alliés d'Israël et lutter contre le Hamas, dont ils disent qu'il est indispensable pour l'émergence d'une solution politique dans la région, qu'il faille la destruction du Hamas. Eh bien non, on va confier cette aide humanitaire qui va arriver à Gaza sur un port construit par, financé par le Qatar et construit par une organisation de construction civile, publique, contrôlée par le Hamas. Donc le Hamas aura la haute main sur la distribution de l'aide humanitaire. Mais ça veut dire quoi, ça ? Celui qui contrôle l'aide humanitaire a le pouvoir.
Vous parlez du Qatar. Le Qatar organise également cette semaine une immense foire militaire, hein, où les grands fabricants d'équipements militaires viennent exposer leur dernier joujou. Et on apprend que l'Iran s'y trouve aussi.
Bah oui.
Et que l'Iran expose effectivement cette toute dernière technologie. Elle aurait sorti maintenant un tout nouveau drone qui aurait environ 2000 km de portée, donc qui pourrait venir menacer Israël, avec 13 charges. Une capacité de porter 13 charges sur ce drone. qu'elle a nommé Gaza. Hein, c'est ce nouveau drone s'appelle Gaza. Mais au-delà de ça, évidemment, c'est quand même extrêmement choquant. Voilà l'Iran qui n'arrête pas, par l'intermédiaire de ces milices pro-iraniennes qui se trouvent en Irak, en Syrie, par l'intermédiaire des Houthis, évidemment aussi, d'attaquer les Américains, que ce soit les bases américaines ou les navires maritimes, les navires commerciaux américains qui passent dans le détroit. Et au même moment, le Qatar n'hésite pas à inviter ces mêmes Iraniens à exposer leur tout dernier armement au Qatar même, en présence des Américains.
Américains qui disposent de la plus grande base au Moyen-Orient, au Qatar, à l'Udeid. Qatar qui a reçu de l'administration américaine le statut d'allié privilégié des États-Unis au même titre qu'Israël. Qatar qui est le parrain financier du Hamas. Je veux dire, on est devant une situation totalement abracadabrantesque, je ne sais pas comment le dire. C'est incompréhensible. Les États-Unis ont des leviers considérables contre le Hamas pour exiger, contre le Qatar, pardon, pour exiger de cet empire gazier qu'il fasse pression sur le Hamas pour qu'il libère la totalité des otages. Bien non, on n'en fait rien. Au contraire, on cire les pompes ou les babouches des responsables qataris. Et pas seulement les Américains. L'ensemble des chancelleries occidentales reconnaissent le rôle central, pivot, joué par le Qatar dans les négociations pour la libération des otages. Alors qu'il suffirait d'un mot du Qatar pour contraindre le Hamas, dont les principaux responsables d'ailleurs vivent à Doha, pour les obliger à libérer des otages. Et de qui viendrait cette pression ? Des États-Unis. Les États-Unis pourraient décider, eh bien, de délocaliser leur base de Al Udeid au Qatar, de la mettre au Bahreïn, par exemple, n'importe où, et de mettre un terme à cette désignation du Qatar comme allié privilégié des États-Unis. On pourrait l'imaginer. Ou bien de déclarer le Qatar comme état sponsor du terrorisme, comme l'administration Trump l'avait décrété pour l'Iran. Eh bien, on n'en fait rien.
Ou bien de déposer un mandat d'arrêt. Contre les leaders du Hamas qui se trouve au Qatar,
tout à fait.
De les faire arrêter et de mettre pression sur eux pour que tous les
Donc États... C'est à n'y rien comprendre. On ne comprend rien ce qui se passe aujourd'hui, sinon une détestation cosmique, planétaire d'Israël, de ce représente le juif, qui est, aux yeux de certains et de plus en plus nombreux dans nos sociétés occidentales, un ennemi plus dangereux que le Hamas lui-même.
Alors terminons peut-être par nos amis démocrates aux États-Unis. Il y a 8 sénateurs démocrates qui ont demandé l'arrêt de l'aide militaire, oui. Parce qu'Israël enfreindrait potentiellement les lois associées à l'octroi de ce type d'aide militaire. Il y a 19 autres, ou peut-être pas 19 autres, parmi les 19, les
C'est
8.
C'est 19 au total.
19 au total. Qui ont demandé également à Biden de déclarer, ou en tout cas de réfléchir à déclarer l'indépendance d'un État palestinien démilitarisé. Mais il y a un sénateur démocrate...
Que l'on salue, qu'on aime beaucoup, John Fetterman.
Alors dites-nous, John Fetterman, qui est ce personnage et que fait-il ?
Alors c'est un personnage tout à fait... tout à fait étonnant. Un personnage dont il faut dire la vérité. Nous nous sommes moqués nous-mêmes lorsqu'il était placé devant sa propre réélection face à un candidat républicain qui a eu une attaque, un AVC extrêmement sévère et qu'il avait mis à pied. Et on se posait la question, nous, au sein de Chercher l'erreur, question de savoir comment est-ce qu'un homme qui avait été aussi affaibli pouvait remplir la fonction de sénateur. Eh bien voilà, c'est un des rares sénateurs démocrates de l'aile progressiste. J'insiste, parce que sur tous les autres domaines, il est en pointe du progressisme américain, du progressisme démocrate. C'est un des rares faisant partie
C'est le seul.
Pratiquement le seul, vous avez raison, à ne pas avoir perdu sa boussole morale et à continuer de dire qu'il faut impérativement que Israël détruise le Hamas.
Et je crois qu'il a contredit, il n'hésite pas à contredire l'administration Biden, il a contredit Blinken.
Et le président.
Tout à fait.
Et le président lui-même.
Donc on salue John Fetterman et ce sera le mot de conclusion pour cette semaine.
Au revoir.